Ovidius Publius Naso, Les Amours, Livre 2, Élégie première. Encore un ouvrage d'Ovide qu'a vu naître l'humide contrée de Féligne au fécond littoral. D'Ovide, le poète de ses propres folies. C'est encore l'amour qu'il a voulu. Loin d'ici, oui, loin d'ici, beauté sévère. Vous n'êtes point l'auditoire qu'il faut à cet ordre sassant. Je veux être lu par la Vierge, dont le cœur s'enflamme à la vue de son fiancé, et par le jeune adolescent que l'amour vient de blesser pour la première fois. Je veux que l'amant, frappé du même trait que moi, reconnaisse en me lisant le feu qui le dévore, et qu'après un long étonnement, il s'écrie « Mais comment ce poète a-t-il connu le secret de mes amours ?» J'avais osé, je m'en souviens, chanter la guerre des dieux et Gigès aux cent mains. Et la force m'aurait point manqué. J'allais dire la terrible vengeance de Tellus et la chute de Pélion roulant vers l'Ossa du haut de l'Olympe envahi. J'avais en mes mains les nuages, Jupiter et la foudre qui, lancée par lui, eût défendu son empire. Ma maîtresse me ferma sa porte. Aussitôt, j'oubliais Jupiter et sa foudre. Ou Jupiter, oui, oui, Jupiter lui-même cessa d'occuper mes pensées. Pardonne, maître des dieux. Tes traits ne me servaient à rien. Cette porte fermée était à mes yeux plus que de ta foudre. Je revins à mes badinages, à mes légères élégies, ces armes qui m'appartiennent, et la douceur de mes chants amollit bientôt la dureté des portes. Les vers vont descendre vers nous, le disque ensanglanté de la lune. Ils arrêtent au milieu de leur course les blancs coursiers du jour. Les vers arrachent aux serpents leurs dards empoisonnés. Ils forcent le fleuve à remonter vers sa source. Devant des vers sont tombées des portes. Ils ont triomphé de la serrure et du chêne épais qui le portait. Qu'aurais-je gagné à chanter Achille au pied léger? Qu'auraient fait pour moi les deux Atrides et ce guerrier qui, après 10 ans de combat, erra 10 ans à l'aventure, et cet Hector, traîné sans pitié par les coursiers d'un prince démone? Mais dès que j'ai célébré la beauté d'une jeune fille, elle vient d'elle-même trouver la poésie, le poète, pour le payer de ses vers. C'est là une grande récompense. Adieu, héros, et vos illustres noms. Ce ne sont pas vos faveurs que j'ambitionne, pour vous, jeune beauté. Daignez sourire au vers que me dicte l'amour aux joues de rose. Élégie 2. Ô toi, Bagoas, à qui est confié le soin de garder ta maîtresse, écoute. Je n'ai que quelques mots à te dire. Mais ils sont importants. Hier, je l'ai vu se promenant sous les portiques des filles de Danaus. Aussitôt, épris de ses charmes, je lui adressai par écrit ma prière. Sa main tremblante me répondit le mot « impossible ». « Et pourquoi impossible ?» lui demandai-je. Elle me répondit que ta surveillance était trop rigide. Si tu sais bien, gardien sévère, si tu fais bien, cesse, crois-moi, de mériter la haine. Se faire craindre, c'est faire désirer sa perte. Son mari lui-même est un insensé, car pourquoi se tourmenter à défendre un bien qui, pour rester intact, n'a pas besoin de surveillant? Laissons-le se livrer au furieux, au transport de son amour. Laissons-le croire à la pureté d'une femme qui plaît à tout le monde. Pour toi, accorde-lui le secret, quelques heures de liberté. Ce que tu lui en donneras te sera bien rendu par elle. Deviens son complice. Et la maîtresse obéit bientôt à son esclave. Cette complicité t'effraie, eh bien, tu peux fermer les yeux. Lit-elle à l'écart un billet? Suppose qu'il lui vient de sa mère. Un inconnu se présente-t-il, qu'il entre comme si tu le connaissais déjà? Va-t-elle voir une amie malade qui ne l'est pas? Figure-toi qu'elle l'est en effet. Te fait-elle attendre? Tu peux, pour ne pas te fatiguer, appuyer ta tête sur tes genoux et ronfler à ton aise. Ne t'informe jamais de ce qui peut se passer au temple d'Isis. Ne t'inquiète pas de ce qui peut se faire dans l'enceinte des théâtres. Un complice discret sera toujours comblé d'honneur. Et pourtant, est-il rien de plus facile que de se taire? Il est aimé. Il mène tout le monde, toute la maison. Il n'a point les étrivières à redouter. Il est tout puissant. Aux autres vils troupeaux, l'esclavage. Pour cacher au mari la vérité, il lui faut d'adroits mensonges. Et, maîtres tous les deux, ils trouvent bien ce qui me plaît, qu'à la femme. Que le mari fronce le sourcil, que son front se charge de rides. Ce que veut une femme, elle l'obtiendra par ses caresses. Mais il faut que de temps en temps, il laisse entre vous des querelles. Il faut qu'elle verse des larmes, feinte, et te traite de bourreau. Alors, de ton côté, trouve-lui des torts dont elle puisse aisément se justifier. Et par de fausses accusations, fais prendre à son mari le change sur la vérité. À ce prix, pleuvront sur toi et les honneurs, et d'abondantes largesses. Suis mes conseils, et bientôt tu seras libre. Tu vois les délateurs, le cou chargé de chaînes étroites. Un noir cachot, voilà le partage des âmes perfides. Tantale cherche l'eau au sein même de l'eau. Il aspire après des fruits qui lui échappent sans cesse. Voilà ce que lui a valu son indiscrétion. L'Argus payé par Junon mourut avant l'âge pour avoir trop bien gardé l'eau et les déesses. J'ai vu chargé de fer qui lui meurtrissait les jambes un indiscret qui avait révélé à un mari les amours incestueux de sa femme. Et ce châtiment était trop doux pour son crime. Le poison de sa langue avait fait deux victimes. Un mari condamné à gémir et une femme déshonorée et flétrie. Crois-moi, il n'est point d'époux qui aime de semblables accusations. Il peut les entendre, mais jamais avec plaisir. S'il reste froid, son indifférence rend ta délation inutile. Et s'il aime, il te doit son malheur. D'ailleurs, la faute la plus évidente est toujours difficile à prouver. La femme a pour elle l'indulgence de son juge. Eût-il tout vu, il croira encore à son désaveu. Il accusera ses propres yeux et se donnera tort à lui-même qu'il avoir pleuré sa femme. Il pleurera avec elle et s'écriera « Oh, ce maudit bavard me le paiera cher !» Vois donc dans quelle lutte inégale tu t'engages. Vaincu, les trivières et écrivières t'attendent, pendant que la belle triomphe sur les genoux de son juge. Ce n'est point un crime que nous méditons. Nous ne voulons pas nous voir pour composer breuvage et empoisonner. Dans nos mains n'étincelle point une épée nue. Nous demandons de pouvoir, grâce à toi, aimer sans danger. N'est-il rien de plus innocent que notre prière? Élégie 3. Que je suis malheureux que la garde de ma maîtresse te soit confiée. À toi qui n'es ni homme ni femme, et qui ne peut connaître le plaisir que partagent deux amants. Celui qui, le premier, mutila honteusement l'enfance, méritait de souffrir le même supplice. Tu aurais plus de complaisance, tu serais moins sourd à mes prières, si l'amour t'avait jamais conduit au pied d'une belle. Tu n'es point fait pour monter à cheval, pour manier des armes pesantes, pour charger un bras de ta lance belliqueuse. C'est le partage de l'homme. Tout acte viril t'est interdit. Ne suis donc jamais d'autre manière que celle de ta maîtresse. Mets tous tes soins à la servir, malgré eux, sache profiter de ses bonnes grâces. Si elle te manquait, à qui serais-tu bon? Son âge et sa beauté invitent au plaisir. Ses charmes ne doivent pas se flétrir dans un honteux abandon. Si sévère que tu paraisses, elle aurait bien pu te tromper. Le désir de deux amants finit toujours par s'accomplir. Mais, comme il vaut mieux avoir recours aux prières, nous t'implorons, tandis que tu as encore le temps de servir nos amours.